Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène en Corée du Sud essayer de comprendre ce phénomène de boys band qui fait le tour du monde, la K-pop. Il n'y a pas que la musique, hein, y a aussi l'image de la Corée qui compte beaucoup et je vous laisse découvrir. Ce soir également, Florence vous en a donné un avant-goût à l'instant, une affaire de vidéo porno pirate qui fait beaucoup de bruit au Danemark parce qu'elle envoie du monde en prison. Ce sera sous les radars, 18h45, le film étranger du mercredi, In the Fade, de Fatih Akin, Corinne Pellissier l'a vu, ou la réaction sans nuance d'une femme qui a perdu ses proches dans un attentat, ça vaut le coup d'en parler. 18h55, l'édito d'un jour dans le monde avec Sylvie Kaufmann du journal Le Monde et les parcs nationaux aux États-Unis qui se privatisent. Mais tout de suite, nous allons en République tchèque, entre deux tours d'élections présidentielles et toujours cette crainte du populisme. Mais peut-être y a-t-il, allez savoir, une exception tchèque et on voit ça dans un instant.
Fabienne Saint-Pès, un jour dans le monde.
Občané, milí přátelé, těžko se tomu věří, ale letos uplyne už 10 let od strhujících dnů.
Voilà, c'est Václav Havel qu'on est en train d'entendre. Et si j'ai voulu qu'on écoute Václav Havel, Jacques Rupnik, bonsoir, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, c'est qu'il y a toujours quelque chose de particulier, en fait, à parler de la République tchèque, probablement à cause de lui. C'est le pays de la révolution de velours, c'est le pays de la marche heureuse vers l'Europe en 2004, la marche heureuse vers l'OTAN aussi, un peu avant, en 99, sous une espèce de bienveillance intellectuelle et morale aussi, qui était celle de Václav Havel à l'époque. Et tout ça a volé en éclats, comme souvent, en Europe, dans les ex-pays de l'Est. Les sirènes du populisme, elles font leurs effets là aussi. Premier tour donc des élections présidentielles, c'était le week-end dernier. Un deuxième tour le 26 et 27, qui oppose le président sortant, qui s'appelle Miloš Zeman, et un scientifique novice en politique, autour duquel se sont ralliés les candidats exclus du deuxième tour. Il s'appelle Jerrid Raos. Zeman, on le connaît, on va y revenir. Mais Jacques Rupnik, encore une fois, il y a quelque chose de particulier, parce qu'on a pu croire à un moment peut-être que la République tchèque avait quelque chose de plus solide, en fait, que les autres pays de l'Est. Non.
C'est vrai qu'elle a été le symbole de 89. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est le pays où la révolution a été la plus forte. C'est la Pologne, certainement, avec Solidarność, qui a donné le coup de boutoir le plus puissant au moment de la chute du communisme. Mais symboliquement, c'était la révolution de velours et Václav Havel qui ont incarné cette idée qu'on pouvait réinventer la démocratie, qu'on pouvait parler autrement de la politique. Et je crois que ce parcours, voilà, d'un intellectuel en politique, l'idée du philosophe roi, en quelque sorte, ça c'était quelque chose de très fort. Et je crois que ça a interpellé, disons, bien au-delà de l'Europe centrale. Et évidemment, c'est très très dur, après son départ, d'être à la hauteur de cette image-là.
Voilà, c'est là que je vous emmène, parce que alors, le pouvoir, il l'a quitté depuis évidemment un certain temps, maintenant avec la Vavel, évidemment, puis bien sûr il est mort désormais, mais est-ce que c'est au moment où il part, en fait, que doucement les choses, j'allais dire, se délitent et qu'on arrive finalement en Tchéquie dans une configuration qui ressemble à celle des voisins, qui ressemble à celle de la Hongrie, qui ressemble à celle de la Pologne, qui ressemble à celle de la Slovaquie en matière de populisme? Est-ce que cette descente, elle se fait doucement? Elle se fait comment?
Je pense que pendant longtemps, Havel lui-même, à la présidence, était déjà l'arbre qui cachait la forêt. C'était le symbole qui était là. Mais le vrai pouvoir, c'était les partis qui l'avaient. Et on pensait alors que les Tchèques pensaient construire une démocratie classique avec un parti social-démocrate, un parti de droite dirigé par un économiste libéral, Václav Klaus, et qu'en gros, on était en train de copier le modèle occidental. Or, d'abord, le modèle occidental lui-même était fatigué et essoufflé et sujet à des poussées de populisme. Et puis, ce qu'on voit dans l'élection présidentielle récente, c'est que les partis se sont effondrés. Aucun des candidats présentés ne représentait un parti. Le seul qui avait une filiation partisane, c'était un ancien premier ministre de droite, M. Topolánek, il a fait 4%. Mm-hmm. Donc c'est une élection présidentielle où les partis sont absents. Il y a eu une élection législative il y a 3 mois, où les grands partis se sont effondrés là aussi. Et c'est un entrepreneur qui a créé son parti politique, donc entreprise économique, puis entreprise politique.
Mmh. Ça nous dit vaguement quelque chose, hein, vous me direz. Ben
c'est un, on peut parler là de populisme entrepreneurial, ouais. Puisque lui a été porteur de l'idée de l'efficacité. Laissez-moi faire, il faut gérer l'État comme une entreprise, et les partis sont là pour bavarder au Parlement. C'est le Parlement est une chambre de bavardage. Mmh. Ça, c'était le thème de l'élection législative il y a 3 mois. Mmh. Donc, oui, les deux, si vous voulez, font qu'il y a un populisme, et c'est un populisme qui est différent de celui que l'on voit en Pologne et en Hongrie.
Alors j'allais vous demander, qu'est-ce qui différencie la Tchéquie de ses voisins quand même? Il y a quelque chose qui les différencie ou pas? Parce que le dénominateur commun, on se dit toujours, ah bah, c'est l'histoire des migrants. C'est évidemment plus compliqué que ça.
Non, parce que sur les migrants, ils sont sur la même ligne que les Polonais et les Hongrois.
Oui, c'est ça, alors, le dénominateur commun, ouais, absolument.
Le dénominateur commun, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, le groupe de Visegrad, ils sont d'accord sur l'idée que les migrants, c'est une menace, et qu'il faut surtout rejeter la proposition européenne des quotas.
On va juste citer un chiffre, hein, pardon, mais il y en a 12 des migrants syriens qui sont en République tchèque
aujourd'hui. Oui, oui, ouais, 12. Oui, mais on peut être anti-migrant sans avoir de migrants, la
c'est
preuve.
C'est souvent le cas.
Ça c'est quelque chose qui est spécifique à l'Europe centrale et qui est lié, alors là on peut chercher des explications. Une des explications, c'est qu'ils ont vécu pendant tout l'après-guerre dans un système fermé. On pouvait pas sortir, mais on pouvait pas rentrer. Mmh. Donc ils n'ont jamais eu de migrants.
C'est peut-être ça d'ailleurs.
Ce qu'on a connu, disons, depuis les années 60 en Occident, avec les migrations venues des anciennes colonies essentiellement, ça, eux n'ont pas connu ça. Donc le modèle multiculturel auquel se réfèrent les Occidentaux, non seulement ils ne l'ont pas connu, mais ils n'en veulent pas parce qu'ils le considèrent comme un échec.
Et justement, parce que on va revenir après sur les différences effectivement avec les autres montées de populisme ailleurs, mais puisque vous êtes là-dessus, effectivement, est-ce que c'est pas l'erreur qu'on a commise, nous les Européens, finalement, quand on partage le nombre des migrants arrivés, quand on demande à chacun de faire sa part comme on l'a fait, est-ce qu'on a eu une mauvaise lecture finalement de ces pays de l'Est-là, qui sont finalement libres depuis très peu de temps, qui, comme vous le disiez, n'ont jamais vu de migrants? Est-ce qu'on n'a pas surestimé leur capacité à changer aussi vite, en fait, à complètement bouleverser leur logiciel quand même? Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité là-dedans, nous?
C'est-à-dire, ils ont changé sur tous les plans. Leur économie a changé, leur système politique a changé. Vous prenez tous les critères sociologiques, mode de vie, mode de consommation, voyage, sur tous les plans, il y a une convergence spectaculaire qui s'est faite en 20 ans entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc là, il y a un changement considérable. Il y a un domaine où ce changement n'a pas eu lieu, c'est dans le domaine, disons, sur les questions socioculturelles, là où la question de l'identité est posée. Or, c'est des pays qui, comme je l'ai dit, n'ont pas connu de migration avant, dont la souveraineté a été récemment acquise.
Bien sûr.
Ça ne va pas de soi. Et donc, il est très facile de jouer sur à la fois les peurs identitaire, et aussi sur l'idée qu'il faut préserver la souveraineté qu'on vient d'acquérir. Donc, l'idée que l'Union européenne va décider pour vous combien de migrants vous allez recevoir, ça, c'est très mal passé. D'autant que, aucun autre pays d'Union européenne n'a respecté les critères de répartition. Je crois qu'il y a un seul pays, je ne sais plus si c'est Malte ou la Finlande, il y a un seul pays de l'Union européenne qui a respecté ces critères. Donc, ils ont dit que c'est une politique erronée et elle ne marche pas. Donc ça, c'est le point commun. Mais ensuite, ils ont de grandes différences.
Alors justement, qu'est-ce qui ne les différencie pas? En quoi c'est un populisme différent, celui des Tchèques, de celui des Hongrois, de celui des Polonais, de celui des Slovaques?
Je dirais en Pologne et en Hongrie, Orban, Kaczynski, vous avez l'idée que le peuple est souverain, donc j'ai la majorité aux élections. Il ne faut qu'aucune institution ne représente une entrave à la volonté populaire. Mmh. Donc on s'attaque à la Cour constitutionnelle, on s'attaque à tous les contre-pouvoirs, en gros. Donc ça pose des problèmes avec l'état de droit, puisqu'on veut mettre la main sur la justice, et on voit que, par exemple, la Pologne est en ce moment face à une procédure entamée par l'Union européenne sur la question du contrôle du pouvoir exécutif sur la justice. Donc ça, c'est un point. Deuxième aspect, ma mise sur les médias, l'audiovisuel public. Et il y a généralement aussi une politisation de l'administration. Donc ça, c'est Pologne-Hongrie. Et je pense que là, il y a des leaders qui n'ont pas peur de faire appel à un discours sur la nation, sur les valeurs, les guerres culturelles. On peut dire que là, le thème central, le clivage interne, mais aussi le clivage par rapport à l'Union européenne, c'est sur ces questions sociétales, culturelles. En gros, ce que l'Europe représente à leurs yeux, c'est le libéralisme culturel, c'est le multiculturalisme, c'est le mariage gay, c'est l'avortement. Toutes et eux se présentent comme les défenseurs des valeurs traditionnelles.
Et tout ça, c'est moins présent en Tchéquie. Donc ça n'existe pas en Tchéquie. C'est toujours été un pays très ouvert par rapport par ailleurs.
Pays très ouvert, aussi pays le plus sécularisé d'Europe. Mmh. C'est là où la pratique religieuse est la plus faible en Europe. Et le populisme, donc, côté tchèque, il est anti-immigré. Ça, c'est le président Zeman, le président sortant, qui maintenant aura un deuxième tour très difficile. Mmh. Très, très difficile. Et il y a le populisme entrepreneurial dont je parlais, mais qui n'est pas du tout, qui ne fait pas appel à une mobilisation, disons, identitaire contre ou à la xénophobie. Là, on est plutôt dans le registre le peuple contre les élites. Moi, je suis un leader fort et j'écarte ces élites incompétentes.
On est dans un registre à la Trump, finalement, parce que c'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre, d'ailleurs, le mini-Trump. Ou
oui, entre Trump et Berlusconi. Il y a un mélange des deux, puisque le monsieur Babiche, qui a l'ambition d'être le Premier ministre, eh bien, il contrôle aussi un certain nombre de médias, de journaux en particulier.
Avec une différence peut-être entre la Tchéquie et les autres, c'est que il y a une croissance solide en Tchéquie. Il y a un taux de chômage qui reste un taux de chômage bas. Il y a une économie qui fonctionne mieux finalement que les voisins. Ça aussi, ça fait une vraie différence, j'imagine, non ?
Oui, l'économie n'est pas un facteur d'explication du populisme. Ça, c'est très intéressant. On a beaucoup utilisé cette grille de lecture en Europe occidentale. Mmh. Elle n'est pas pertinente, même en Pologne. La Pologne est le seul pays d'Union européenne qui n'ait pas connu la crise après 2008. Mmh. Ils sont en pleine croissance, 3% de croissance pour la Pologne, la même chose pour la République tchèque. La République tchèque a le taux de chômage le plus bas d'Europe, ils sont en dessous de 3%. Non, donc il n'y a pas d'explication économique. L'explication, donc, elle est beaucoup plus sur le registre que j'ai évoqué. Là, il s'agit plutôt de questions de société et d'identité culturelle. Et là, je pense que ça, c'est pas des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. C'est important quand un leader politique, vous avez évoqué Václav Havel, mais il y en a d'autres. Le candidat qui est au deuxième tour de l'élection présidentielle tchèque, qui est un universitaire, que président de l'Académie des sciences,
Jiří Drahoš,
lui essaye à sa façon d'être un modérateur dans la politique, d'avoir un discours, disons, voilà, apaisé, consensuel. Donc, il veut être exactement l'inverse des populistes. Et il n'est pas impossible qu'il gagne au deuxième tour, parce que bien qu'il ait pas mal de retard, il y a
une sorte de coalition autour de lui, par ailleurs, qui s'est créée.
En gros, tout le monde contre Zeman.
Mais alors, Jacques Rupnik, s'il l'emportait, ce Jiří Drahoš, est-ce que ça voudrait réellement dire quelque chose pour la République tchèque, ou est-ce qu'on risque de se retrouver encore une fois dans une mauvaise lecture, comme on a pu le faire en Autriche, par exemple, ou aux élections présidentielles? Effectivement, on échappe à l'ultra-droite, mais on n'y échappe pas au gouvernement suivant, puisque c'est même encore pire, il y a des ministres d'extrême droite qui sont rentrés au gouvernement. Donc, est-ce que ça dirait vraiment quelque chose si Jiří Drahoš l'emportait en République tchèque ou pas? Parce que le rôle du président, par ailleurs, il est assez, il n'est pas très important.
Il n'est pas très important. C'est vrai que c'est comme en Autriche, d'ailleurs. Oui. Vous avez une élection au suffrage universel direct, mais les pouvoirs présidentiels sont faibles. Et c'est vrai qu'en Autriche, c'est un candidat vert, issu du Parti vert, qui a gagné contre un candidat d'extrême droite l'année dernière.
Et quelques mois plus tard,
tard, la coalition entre la droite et l'extrême droite. En République tchèque, il n'y a pas ce danger, parce qu'il n'y a pas de parti. Il y a ce parti populiste de monsieur Babiche, qui pourrait alors, parce que il est en ce moment, il a remis sa démission, il a été incapable de constituer un gouvernement. Il n'est pas impossible qu'il soit obligé de chercher des voix et d'un mouvement populiste xénophobe qui existe, qui a à peu près 10% au Parlement, et qu'il cherche, peut-être les voix du Parti communiste aussi. Bref, là, ça serait une variante qui nous rapprocherait du modèle autrichien. Moi, j'y crois pas personnellement. Je crois que la République tchèque va sans doute reconduire une coalition comme celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, avec les sociaux-démocrates et les chrétiens. Elle sera plutôt pro-européenne et, en tout cas, ils n'ont aucune envie d'être mis dans le même sac que la Pologne et la Hongrie. Le Brexit, ça leur fait pas du tout envie. Mmh. On voit les résultats en Grande-Bretagne. C'est un repoussoir. Mmh. Et la Slovaquie, c'est la même chose. Vous avez un populiste light, nationaliste, populiste, très dur sur la question de migration, mais qui est dans la zone euro et qui dit que la Slovaquie veut être dans le noyau européen que propose Macron avec Merkel.
Et alors, juste une dernière chose, justement, si jamais, effectivement, l'opposant Zeman l'emportait, est-ce que ça dit des choses pour Babiche quand même? Ça veut dire, est-ce que ce Premier ministre pourrait être sur la sellette? Est-ce qu'il pourrait y avoir un vrai renversement de gouvernement vers quelque chose de plus, j'allais dire démocratique, c'est pas le mot que je voulais employer, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Renverser le gouvernement, il peut être un contrepoids. Mmh. Vous savez que le président doit contresigner les lois. Il peut dire, telle loi, je ne l'accepte pas, je ne la signerai pas. Telle nomination, je ne l'accepterai pas, je ne la signerai pas. Donc, il a un pouvoir symbolique qui est limité, mais qui est quand même important. Et je crois que, voilà, sa victoire aux élections, même si c'est un inconnu total, il apprendra très vite.
On apprendra à le connaître, nous aussi.
Voilà, les Tchèques apprennent à le connaître et le reste de l'Europe fera pareil.
Jacques Rupnik, toujours passionnant de vous écouter, de vous entendre. Merci beaucoup. Le deuxième tour de ces élections en Tchéquie qu'on suivra avec beaucoup d'attention, c'est le 26 et le 27 janvier prochain. Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Danemark avec une vidéosurveillance qui envoie du monde en prison. Des filets de pêche aussi qui attrapent même des pingouins, des otaries, des phoques. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Le reportage en musique dans l'univers très particulier de la K-pop coréenne. Ce sera avec Frédéric Ojardias. Et puis le film étranger du mercredi, In the Fade de Fatih Akin. Vous l'avez vu, Corinne Pellissier. Réponse radicale d'une victime d'attentat.
Exactement, un film de vengeance multi-récompensé avec Diane Kruger dans le rôle de sa vie. Assez clivant, on en parle tout à l'heure.
Eh bien, vous viendrez nous raconter. Merci beaucoup. Voici Rex Orange County Sunflower sur France Inter. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why. I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? She sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why. soleil dans la radio et du miel dans la voix, Ex-Orange County sur France Inter. Voici Florence Paracolos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence, l'info internationale que vous avez dénichée dans les recoins de la planète, on file au Danemark avec la fin d'une longue enquête.
Les victimes de revenge porn en rêvaient, les Danois l'ont fait. Fabienne, le revenge porn ou la diffusion sur internet de vidéos débats sexuels après une rupture, c'est quasiment toujours les femmes qui en sont victimes, et souvent de très jeunes femmes, ce qui est arrivé à une ado de 15 ans, une Danoise en 2015, une vidéo sexuelle avec un garçon du même âge, partagée via Messenger. À l'époque, deux ados écopent d'une peine d'amende pour avoir été les premiers à la diffuser. Mais vous le savez, une fois que la machine est lancée, impossible de l'arrêter. Jusqu'à l'an dernier, Facebook, maison mère de Messenger, alerte les autorités américaines sur cette vidéo danoise. Elles transmettent aux Européens et c'est Europol qui va saisir la police danoise. C'est parti pour des mois d'enquête, à l'issue desquels plus de 1000 jeunes Danois ont été inculpés lundi, 80% de garçons, pour avoir partagé les fameuses images. Au Danemark, ça relève de la pédopornographie, comme tous les messages sexuels concernant les moins de 18 ans, c'est passible de 2 ans de prison. De quoi faire réfléchir à l'avenir avant de cliquer sur partager quand on a ce genre de vidéo sous les yeux.
Et tant mieux. À l'autre bout de la planète, Florence, tiens, puisqu'on parlait de pêche hier, vous nous emmenez-vous en Nouvelle-Zélande?
Fabienne, on est sur un chalutier néo-zélandais. De grosses chaînes remontent les filets chargés de poissons. Mais pas seulement, il n'est pas rare que les chaluts remontent des pingouins, des otaries, des phoques, des dauphins. Le dauphin Maui, par exemple, a été décimé par la pêche industrielle en Nouvelle-Zélande. Il n'en reste plus qu'une quarantaine. On appelle ça la pêche accidentelle ou les prises accessoires. Et c'est une chose de le savoir, c'en est une autre de voir ces animaux morts au milieu des poissons. C'est la grande crainte des pêcheries néo-zélandaises parce qu'une loi prévoit l'installation de caméras sur les bateaux. Les patrons de pêche n'en veulent pas, ce qu'ils refusent absolument, c'est que ces images puissent être montrées au public. Ça va discréditer l'industrie et l'économie du pays, disent-ils. Au contraire, pour les associations écolo comme Forest and Birds, il faut voir ces images. Ce sont les pratiques standards de cette industrie. Une pêche qui tue des albatros, des pingouins, des espèces en danger, des dauphins, des lions de mer. Évidemment, ils vont avoir tendance à ne parler que de leur pêche légale. Et c'est pour ça qu'il faut des caméras sur les bateaux, pour que le public sache comment ça se passe. Voilà. Qu'ils sachent que 20% de ce qui est remonté dans les filets de pêche en eau profonde, eh ben, ce sont des prises accessoires, c'est énorme, 20%. Les images font-elles changer ces méthodes de pêche pour un secteur stratégique en Nouvelle-Zélande, en sachant que la problématique est valable dans le monde entier? Greenpeace, par exemple, chiffrait à 100 000 tonnes le nombre d'espèces non pêchables se trouvant dans les très vastes filets de pêche à la Seine. C'est une autre technique qui déploie des dizaines d'hectares de filets à la surface, très utilisée pour la pêche au thon, 100 000 tonnes par an, là aussi, c'est énorme.
Enfin, Florence, il paraît que les vaches sont magiques.
Oui, celle-là. Fabienne, mais seulement les vaches indiennes, magiques et sacrées pour les hindous. Tellement sacrées qu'il existe des milices de protection des vaches qui sont pas sympas du tout d'ailleurs. Et bientôt, une thérapie de la vache dans les prisons de l'Haryana à côté de New Delhi. La région va acheter 600 vaches pour ses 6 pénitenciers et installer des étables dans l'idée que les vaches vont faciliter la réinsertion des prisonniers grâce à leur pouvoir magique. Le lait va purifier les détenus et l'urine et la bouse de vache pourront être vendues sur les marchés locaux, sont consommées en Inde pour leurs bienfaits revigorants. Tout cela, bien entendu, dans la droite ligne de la politique des nationalistes hindous au pouvoir depuis 2014. Namasté, Fabienne.
Namasté. Et à demain, Florence Paracolos sous les radars sur France Inter.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Corée du Sud que le reportage d'Un jour dans le monde vous emmène ce soir. Ça nous permet de mieux connaître ce pays vers lequel nous serons tous tournés pendant les Jeux Olympiques d'hiver qui commencent très bientôt. Ce que vous entendrez dans les magasins, dans les haut-parleurs, la musique, c'est la fameuse K-pop. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Fabienne.
Avec nous depuis Séoul, Frédéric, la K-pop, c'est un phénomène que vous allez nous expliquer. Les plus jeunes qui nous écoutent savent exactement de quoi on parle. Des groupes de boys band au succès incroyable. Un tel phénomène chez vous, Frédéric, que la mort très récente récente de la star de la K-pop a plongé tout le pays dans l'effroi. Son groupe s'appelait SHINee, effroi en Corée, effroi partout ailleurs aussi d'ailleurs.
Oui, comme beaucoup de groupes de K-pop, SHINee avait une audience mondiale et on l'a vu à travers les innombrables messages laissés dans toutes les langues par les fans éplorés. Des mémorials faits de fleurs, de photos, de bougies sont apparus spontanément au Chili, en Russie, à Mexico. Et ce succès mondial et spectaculaire de la K-pop en général s'observe aussi ici à Séoul, où des fans du monde entier viennent pour voir des concerts et acheter des collectors. Dans le magasin de disques Bulu Track, j'ai rencontré Joy, venue des Philippines avec une amie. C'est leur deuxième voyage en Corée.
Je suis venue pour acheter des nouveautés. Ce n'est que notre deuxième jour, mais nous avons déjà acheté beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la K-pop ?
Le rythme est très enjoué. Vous pouvez vous sentir proche de cette musique, même sans comprendre les paroles. C'est pourquoi nous venons en Corée et nous reviendrons sûrement.
Les ventes à l'étranger de CD, de concerts et du merchandising K-pop ont doublé depuis 2013 pour dépasser 4 milliards d'euros l'année dernière. L'Office du tourisme coréen utilise à présent massivement les idoles K-pop pour promouvoir le pays. Avec succès en 10 ans, le nombre de visiteurs étrangers a triplé. Lee Chun-sang est le patron du Bulu Track. Il a ouvert son magasin il y a 40 ans et il raconte comment la K-pop s'est imposée.
Au début, mon magasin était dédié à la musique classique. Mais comme de plus en plus d'étrangers venaient dans le quartier pour y chercher de la K-pop, j'en vends maintenant sur un étage entier. La plupart de mes clients viennent d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie, de Thaïlande, et aussi du Japon et de Chine. Ce que je vends le plus en ce moment, c'est le boys band BTS. Et aussi toujours beaucoup de bandes originales de feuilletons télécoréens. C'est d'ailleurs avec les premiers succès de ces feuilletons à l'étranger que tout a commencé. Il y a eu un effet domino qui a mené au boom de la K-pop.
Alors justement, Frédéric, ce fameux boom de la K-pop, comment on l'explique ?
Eh bien, il s'explique tout d'abord grâce à YouTube. C'est sur ce site que sont diffusés en masse les clips dont les chorégraphies sont ensuite reproduites par les fans. L'année dernière, les vidéos de K-pop ont accumulé 24 milliards de vues sur YouTube. Une autre raison du succès est expliquée par le français Fabien Youn, comédien et présentateur de télévision en Corée du Sud.
La raison principale, c'est la qualité du contenu de la K-pop, donc c'est-à-dire des chorégraphies, des clips musicaux qui sont très bien réalisé et tout simplement parce que les chanteurs et les chanteuses de K-pop ont énormément de talent et ça se voit quand on regarde leurs clips ou leurs concerts. Ils dansent très bien, ils chantent très bien et tout est parfaitement réalisé au millimètre près et je pense que c'est une des raisons qui font que la K-pop aujourd'hui est incontournable en France et en Europe d'ailleurs.
Les producteurs visaient au début seulement le marché asiatique, mais la vague K-pop a déferlé sur le monde entier, jusqu'en Europe, où les groupes les plus célèbres jouent à guichets fermés et où dans les universités, les cours de coréen débordent d'étudiants.
Alors Frédéric, à partir de quand remonte ce succès qui semble avoir surpris jusqu'aux Sud-Coréens eux-mêmes ?
Eh bien, il trouve son origine dans la crise asiatique de 97. À l'époque, les producteurs coréens font face à un marché interne trop étriqué et ruiné et ils adoptent une mentalité tournée vers les exportations. C'est ce qu'explique Mark Russell, auteur du livre « Pop Goes Korea ».
Les producteurs de K-pop sont très bons pour inviter des compositeurs européens, en particulier scandinaves. Ils travaillent les chansons ensemble, ils envoient aussi des musiciens coréens en Europe. Mais ils sont parvenus au succès en trouvant une formule qui leur est vraiment propre. Au début, les producteurs ciblaient soigneusement des pays comme la Thaïlande, la Chine, puis toute l'Asie. Mais quand cela a marché jusqu'au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, cela a vraiment surpris les gens. Je ne dirais pas que ça a été une révolution, mais c'est vraiment énorme.
Alors, les retombées économiques et sociales de ce soft power à la coréenne, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est d'abord une aubaine pour les grandes entreprises sud-coréennes. Les stars de la K-pop aident à vendre frigos, smartphones, nouilles instantanées ou produits cosmétiques à travers toute l'Asie. La Corée du Sud, un pays ravagé par la guerre, longtemps méconnu, a désormais une image cool, branchée. Et si les Sud-Coréens se sont longtemps vus en victimes de l'histoire, en position d'infériorité, ils sont aujourd'hui fiers d'être devenus un modèle, explique Benjamin Joanneau, anthropologue culturel à l'université Hongik à Séoul.
Cela a donné une confiance énorme aux Coréens, surtout les nouvelles générations, qui à travers ce succès phénoménal qu'ils ont eu en Asie, il faut imaginer que les jeunes Chinois, Vietnamiens, Cambodgiens et même Japonais sont habillés à la coréenne, ils ont des looks coréens. Cela, je pense, va donner aux nouvelles générations un sentiment totalement différent, se sentir beaucoup plus autonome, beaucoup plus légitime à demander une position dans le monde.
Mais la K-pop a aussi une face plus sombre. Ces stars, sélectionnées très jeunes par les maisons de disques, passent des années à s'entraîner de manière intensive au chant et à la danse. La chirurgie esthétique est de mise. Les agents contrôlent le régime, le téléphone et même les relations amoureuses de leurs poulains. Le moindre écart de conduite suscite des avalanches de critiques en ligne de la part de fans ultra exigeants. Autant de facteurs qui ont peut-être aggravé la dépression dont souffrait Jung-hyun, le jeune chanteur de SHINee, disparu fin décembre. Ceci dit, son suicide ne devrait pas fondamentalement remettre en cause le fonctionnement de cette très lucrative industrie dont profite toute la Corée du Sud.
Et merci Frédéric Jordias à Séoul pour Un jour dans le monde. Ce que vous entendez là, c'est le fameux groupe SHINee donc dont on parlait juste à l'instant. Et enchaînement magique sur France Inter avec Yadji, c'est la plus grande chanteuse coréenne, figurez-vous. Elle fait un succès incroyable chez nous, chez elle, à New York aussi. On l'aime sur France Inter, ça s'appelle Drink I Spillin' On, c'est le titre. Yadji sur France Inter, Drink I Spillin' On, ça veut dire qu'elle a craché dans votre verre.
3, 2, 1, Winter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelez ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Et le mercredi, action, pardon, les films étrangers en salle, celui à côté duquel on ne peut pas passer en ce moment, c'est In the Fade de Fatih Akin, couronné d'ailleurs au dernier Golden Globe, meilleur film étranger. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Diane Kruger qui joue le rôle d'une jeune femme, Corinne, qui perd son fils et son mari dans un attentat. Extrait d'abord, on en parle après.
Es gab eine Explosion, fahren Sie weiter.
Mein Mann hat sein Büro gleich davon.
Hey,
bei den Todesopfern um ihren Mann.
Hat er Feinde? War er ein Muslim?
Bitte?
Et le pitch, Corinne, comment faire son deuil quand on a perdu un proche dans un attentat? Comment on vit la perte d'un être cher avec la réponse de Fatih Akin qui est à la fois directe, terrible et simplissime, œil pour œil, dent pour dent.
Voilà un sujet fort, beaucoup de récompenses pour un film qui met quand même un peu mal à l'aise par ces images déjà qui vont heurter une façon très directe de filmer le processus par exemple de reconnaissance des corps après un attentat ou à l'énoncé des effets d'une bombe sur le corps d'un enfant. Tout ça commenté, disséqué est assez insoutenable. Et puis sur le plan moral, le film est assez clivant puisque Fatih Akin nous propose une réponse très animale à un sujet très sérieux, très contemporain. Comment punir le terrorisme et accompagner les familles des victimes? Et bien visiblement, pas en portant l'affaire devant les tribunaux. C'est en tout cas ce que raconte cette histoire dont s'est inspiré Fatih Akin pour écrire ce film. C'est une histoire vraie. Un énorme scandale sur l'aveuglement des journalistes de la police après une série d'attentats qui avaient été perpétrés dans les années 2000 en Allemagne par un groupuscule néo-nazi contre la communauté turque.
Et qui avait suscité beaucoup de colère dans le pays. On n'avait pas pris les victimes au sérieux à l'époque parce qu'elles étaient turques. C'était aussi terrible que ça. Tout le monde pensait qu'il s'agissait de règlements de comptes liés à des histoires de trafic. En fait, or, la piste néo-nazie qui avait été tardivement évoquée, a conduit à un procès qui a duré près de 4 ans. Beaucoup, beaucoup de frustration derrière tout ça.
Oui, parce qu'au final, une seule personne a été condamnée, la dernière survivante de ce trio d'assassins qui était accusée de 10 meurtres. L'une des victimes de ce groupe vivait à Hambourg, la ville d'origine de Fatih Akin, qui est un réalisateur engagé, on le sait, d'origine turque. Ses parents sont arrivés en Allemagne dans les années 60. C'est un sujet sensible qui le touche énormément. Un sujet du coup trop concernant pour ne pas s'en emparer, Fatih Akin.
J'aurais très bien pu être l'une des cibles. Mon frère connaissait la victime. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. C'est pour ça que j'ai choisi le point de vue des victimes. Cette histoire a eu un fort retentissement en Allemagne. C'est l'un des plus gros scandales auxquels on a eu à faire face depuis la Seconde Guerre mondiale. En tant que réalisateur, il était tellement normal et évident que je me saisisse du sujet. Ça colle totalement à mon cinéma. Et j'ai tout de suite perçu le potentiel dramatique, même si je m'inspire d'une histoire réelle. Je me suis énormément documenté, les rapports de police, les comptes rendus d'audience, j'ai tout lu. À l'époque où j'ai commencé à travailler sur le film, il y a eu les attentats du Bataclan, puis de Nice. J'avais choisi évidemment de travailler sur un type de terrorisme particulier. Mais le film a cette portée universelle. Ici, on parle des nazis, mais j'aurais pu travailler de la même façon sur Daesh. C'est vraiment un film sur la violence, et comment cette violence en engendre une autre.
Et c'est ce que nous raconte donc ce film avec cette femme incarnée par Diane Kruger. Prix d'interprétation à Cannes mérité selon vous?
C'est le rôle de sa vie, en tout cas elle le dit, c'est un rôle qui l'a transformé, même physiquement, hein, le regard triste, les joues beaucoup plus creuses. Un rôle très intense, composé à partir de nombreuses rencontres avec des familles de victimes. Beaucoup de douleur, beaucoup de colère. C'est son premier film en langue maternelle, en allemand. L'histoire d'une femme, donc Katia, qui perd son fils et son mari et qui veut se faire justice.
Le rôle porte beaucoup de douleur et beaucoup de deuil. Ça vous coûte. Et Fatih Akin est un réalisateur qui demande vraiment aux acteurs de d'y plonger. On ne joue pas, on vit dans la peau de ce personnage. Vraiment, je l'ai porté ce deuil. J'oublierai jamais les personnes que j'ai rencontrées. Et je me suis aperçue de la responsabilité aussi que j'avais envers de ces personnes qui restent. Parce qu'on n'entend jamais vraiment parler. On voit les images horribles à la télévision. On entend les chiffres des morts. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui restent? Qu'est-ce qui se passe avec les mères qui perdent leurs enfants? Ça me semble même bizarre de parler en tant que performance d'actrice sur un sujet qui est aussi émotionnel. Mais je crois pas qu'on a beaucoup, beaucoup de rôles dans une vie comme celui-là.
Voilà, In the Fade de Fatih Akin avec Diane Kruger au cinéma cette semaine. On en reparlera, Corinne, probablement au moment des Oscars. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Et l'édito du journal Le Monde avec Sylvie Kaufmann ce soir. Bonsoir Sylvie.
Comment ça ?
Rien ne va plus entre Londres et Washington, semble-t-il. Décidément, les soucis s'accumulent pour Theresa May.
Mais non, rien ne va plus. Vous vous souvenez pourtant, Fabienne, de cette visite de Theresa May à Washington il y a bientôt un an. La première ministre britannique était le premier chef de gouvernement étranger à rendre visite au nouveau président Donald Trump. Au nom de cette fameuse special relationship, la relation spéciale qui lie la Grande-Bretagne aux États-Unis depuis Winston Churchill. C'était les jours heureux. eux, le président américain avait pris la main de Theresa May en longeant le Rose Garden sur le chemin de leur conférence de presse conjointe. C'était l'époque aussi où Donald Trump prédisait que, je cite, « le Brexit serait une chose formidable » et que la Grande-Bretagne et les États-Unis allaient conclure un énorme accord commercial bilatéral gagnant-gagnant sans être importunés par ces rabat-joies de Bruxelles. Mais depuis, une grosse dépression a traversé l'Atlantique Nord et aujourd'hui, Donald Trump est carrément persona non grata à Londres.
Alors comment on explique le refroidissement ?
D'abord, le principe de réalité. Si Donald Trump croyait qu'il pouvait signer très vite un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne, c'est parce qu'il ignorait que ce genre d'accord n'était pas possible tant que les négociations sur le Brexit ne seraient pas achevées, c'est-à-dire dans le meilleur des cas en 2019. Ensuite, eh bien Trump a fait du Trump et ça a beaucoup énervé les Anglais. Il a aussi exaspéré Theresa May qui a été obligée de le remettre à sa place lorsqu'il a retweeté au monde entier des vidéos anti-musulmanes émanant d'un groupuscule d'extrême droite britannique. Du coup, lorsqu'il a été question d'une visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni, les Britanniques se sont révoltés et ils ont dit non. Ils ont signé des pétitions par millions, le maire de Londres a dit qu'il n'était pas le bienvenu, le président de la Chambre des communes a dit qu'il n'était pas question d'un discours de Trump au Parlement, la presse populaire s'est scandalisée qu'on puisse infliger pareil visiteur à la reine. Et finalement, Trump a préféré renoncer à venir.
Alors, coup dur pour Theresa May ou pas ?
Oui et non. Oui, parce qu'elle pensait s'appuyer sur les États-Unis en s'éloignant de l'Europe avec le Brexit et qu'elle découvre que cet appui-là n'est pas solide. Non, parce que finalement, ce gros coup de froid avec l'ami américain lui donne un argument pour ne pas complètement larguer les amarres avec l'Europe. On dit souvent que la Grande-Bretagne n'arrive pas à trouver sa place entre les États-Unis et l'Europe. Et bien là, les bêtises de Donald Trump l'aident à trouver sa place, qui est avec les Européens. Et vous allez voir que demain, lorsque notre président à nous, Emmanuel Macron, ira à Londres pour rencontrer Theresa May dans le cadre du sommet franco-britannique, il va trouver plein de raisons de maintenir des liens très étroits avec la Grande-Bretagne.
Merci beaucoup Sylvie Kaufmann, le 18-20 continue.